Sur les bords de la Rance, où j'ont vu le jour, j'étions plein d'espérance et folle d'amour, dans une métairie. Non, nulle plus bonne et plus belle à voir que la belle que l'on appelle Fleur de blé noir. Non. Eh bien, bonjour, nous sommes réunis dans le studio de radio du lycée français du Caire aujourd'hui, en compagnie de Anna et Amal, pour rencontrer Madame Michèle Foulin, qui est auteure, qui en ce moment fait une tournée en Égypte, après Port Saïd, Le Caire et Alexandrie. La voilà ici au lycée français pour parler de ses écrits, surtout parler de Saint-Malo. Alors, avant de demander à Michèle Foulin de nous parler de Saint-Malo, je sais maintenant que Amal est allé à Saint-Malo. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti en arrivant là-bas?
Alors, j'ai visité Saint-Malo l'année dernière pour 3 jours. C'est une ville vraiment magnifique. Et inspirante et toute petite.
Alors Michèle Foulin, bonjour et bienvenue ici au lycée français du Caire. Pouvez-vous nous décrire, vous, Saint-Malo, ce Saint-Malo qui vous a vu naître et ce Saint-Malo que vous aimez?
Oui, ce Saint-Malo que j'aime par-dessus tout, ce Saint-Malo qui est celui de ma famille depuis plusieurs générations et ce Saint-Malo qui m'inspire puisque j'en ai fait le principal cadre de mes ouvrages.
Ces fameux ouvrages qui ne parlent que des remparts, en tout cas dans les titres.
Alors oui, parce que les trois tomes font partie d'une saga que j'ai appelée la saga des remparts.
Alors ces livres, vous les avez lus. Nous avons la chance d'avoir avec nous une jeune élève de ce lycée français. Anna, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez préparé beaucoup de questions à poser à Michèle Foulin. Alors allez-y.
D'accord. D'abord, nous voulons commencer par vous demander... quand est-ce que vous avez su que vous voulez écrire et faire ça comme votre métier principal et quand vous avez décidé de publier vos écrits?
Alors, quand j'ai décidé d'écrire, je dirais en même temps que j'ai appris l'écriture. J'ai toujours aimé écrire, mais bon, je ne pensais pas publier un jour. Ce que j'écrivais restait au fond des tiroirs. Il a fallu que j'attende d'avoir vraiment le déclic. Et ce déclic est arrivé il y a quelques années. Et puis cette histoire, je la portais en moi depuis très très longtemps, celle du premier livre. Et puis j'ai pensé qu'il était temps d'en faire vraiment quelque chose sur le papier. Donc j'ai écrit « À l'ombre des remparts ».
Et donc combien de romans ont été publiés?
Alors 2 pour l'instant. Le troisième va sortir là, lorsque je rentre en France la semaine prochaine. Ça sera le troisième de la trilogie des remparts. Après, j'aurai fait le tour des remparts, je parlerai d'autres choses.
Et en plus, en regardant seulement les titres de vos œuvres, on voit que vous êtes tellement influencé par votre vie natale, Saint-Malo, et que l'on retrouve même dans les titres, bien sûr, un des titres, À l'ombre des remparts. Et donc, on voulait juste savoir qu'est-ce qui vous inspire de cette ville ou qu'est-ce qui vous plaît.
Alors, votre professeure a dit tout à l'heure un mot qui m'a frappée, c'est qu'elle a dit qu'elle trouvait que Saint-Malo était inspirant. Ouais. Donc, moi, j'ai la chance de vivre face à la mer, cette mer tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle est de couleur très verte. Ouais. Toute la côte de Saint-Malo jusqu'au Mont-Saint-Michel s'appelle la côte d'émeraude à cause de cette fameuse couleur verte. Donc, moi, j'ai la chance de vivre en face. Donc quand j'écris, j'ai ce paysage magnifique sous les yeux, donc forcément je suis très inspirée.
Et est-ce que c'est votre premier voyage ici en Égypte?
Alors c'est mon premier voyage, effectivement. Je suis en Égypte depuis un peu plus de 3 semaines maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est certainement pas le dernier.
C'est bien. Hein. Et comment est née l'idée de venir ici en Égypte?
Comment l'idée est venue? Oui. Ben, je dirais que c'est une idée qui a mûri longtemps. Parce que je me suis pris de passion pour l'Égypte lorsque j'ai appris l'Égypte antique en rentrant au collège. Et puis, parce que mon papa connaissait un peu l'Égypte, il m'en a beaucoup parlé. Et puis mes lectures, et puis mes rencontres, etc. Donc là aussi, il fallait que le déclic arrive et que je me décide enfin à venir vous voir.
Et votre contact donc avec le Caire ou avec les autres villes que vous avez visitées ici en Égypte, est-ce que l'une de ces villes ou plusieurs villes vous ont inspiré à peut-être écrire par la suite un livre sur l'Égypte?
Ah oui, bien sûr, c'est prévu. c'est prévu. Quand je vais rentrer en France, je vais m'atteler à la tâche et écrire un roman sur mon voyage en Égypte. Alors ça ne sera pas autobiographique parce que je n'écris pas d'autobiographie, je ne sais pas écrire jeu. Donc ça sera une nouvelle fois un roman avec une héroïne et puis il va lui arriver plein d'aventures en Égypte. Voilà.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré le plus ici en Égypte ? Les monuments ou les gens ou je ne sais pas les...
Alors je dirais que c'est un tout. C'est un tout que je n'arrive pas à diviser. Je crois que j'ai aimé effectivement les monuments et puis je crois que j'ai fait de merveilleuses rencontres et que j'ai pris pendant ce voyage-là une formidable leçon d'amour et que je ne suis pas prêt d'oublier.
Donc maintenant, on a remarqué que votre premier roman qui est lié à la veille de la Première Guerre mondiale et on voulait vous demander si ce roman s'inspire d'un fait réel ou d'une personne réelle, ou c'est juste vous, avec vos recherches, qui avez décidé d'écrire ça ?
Alors, il y a à peu près 30% du livre qui sont effectivement des faits réels, qui sont les souvenirs d'enfance de ma propre grand-mère, qu'elle m'a beaucoup conté lorsque moi j'étais enfant. Et puis, quand je disais tout à l'heure que je portais cette histoire en moi, c'est par rapport à ça. Donc, ça a baigné ma petite enfance, et je crois qu'effectivement, ça m'a beaucoup inspirée aussi.
Et je viens de savoir de votre part que vous avez fait une conférence à la bibliothèque d'Alexandrie, n'est-ce pas ? Et quelle était votre impression après cette de la ville et de la bibliothèque elle-même ?
Alors, sur la ville d'Alexandrie, déjà, mon impression est très très favorable. J'ai trouvé la ville d'Alexandrie très belle. Je comprends mieux pourquoi on l'appelle Alexandrie la Belle, d'ailleurs. Et puis, à la bibliothèque, j'ai trouvé que c'était tout à fait fabuleux. Nous n'avons pas ce genre de choses en France. Je suis restée quand même assez scotchée devant la salle de lecture quand j'ai vu un tel espace dédié aux livres. J'avoue que je suis admirative quand même. Hein. Puis je suis très fière parce que maintenant mes livres sont à la BA d'Alexandrie.
Et enfin, quoi d'autre de toute cette visite vous a marqué ou vous a...
Sur Alexandrie ?
Non, sur l'Égypte.
Sur l'Égypte en général, j'ai été formidablement reçue partout. Je garde des souvenirs émerveilleux de chaque endroit où je suis passée, à Port Saïd, comme à Alexandrie, comme au Caire. Non, je n'ai vécu que des moments qui vont rester très très longtemps et à jamais, je pense, gravés dans ma mémoire.
Alors Michel Foulain, je vois que vous êtes connu et aimé déjà dans toute l'Égypte et qu'au lycée français, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir vous lire. Alors si nous entrions un petit peu plus dans vos livres, surtout dans le premier, l'histoire de Léopoldine, c'est l'histoire de votre arrière-grand-mère, les deux guerres mondiales qu'elle a connues, la première a fait son malheur, est-ce qu'on peut dire qu'à peu près la seconde n'a pas fait son bonheur, mais au moins entre les deux, elle a retrouvé l'espoir de vivre avec ses enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce début de livre ?
Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a à peu près 30% du livre qui sont les propres souvenirs de ma grand-mère. Donc oui, cette Léopoldine qui a commencé sa vie de très jeune femme puisqu'elle s'est mariée à 15 ans avec un homme qui avait 15 ans de plus qu'elle, c'est-à-dire 30 ans. Et donc elle a commencé cette vie plutôt bien puisque son mari avait une situation aisée, qu'ils s'aimaient formidablement tous les deux. Très rapidement, elle a eu 5 enfants. Et puis aussi, malheureusement, peu de temps après la naissance du cinquième, la guerre de 14-18 a éclaté. Et là, son époux va partir à la guerre et malheureusement ne reviendra pas. Et donc, elle va connaître la déchéance, la descente vers la misère. Et puis, petit à petit, elle va remonter la pente et prouver ce que j'essaye de faire passer dans mes livres, cette volonté farouche d'émaluer.
Voilà, cette fierté des femmes de Saint-Malo, on sait très bien que les anciennes femmes de Saint-Malo, la tour Solidor en est témoin, puisqu'elle est le musée des Caporniers, beaucoup, à 90%, étaient des pêcheurs à Saint-Malo, à part à l'époque de Surcouf, où on était surtout corsaire avant d'être pêcheur, et les femmes étaient habillées en noir, et elles attendaient toujours au bout du môle des Noirs, si le bateau allait revenir. Donc c'est de là qu'est venue cette fierté, mais aussi cette opiniâtreté à vouloir réussir. Et je crois que dans un lycée comme nous sommes ici, ce qui est bon pour les jeunes, en lisant ce genre de roman, c'est que quand on tombe plus que bas, puisque la cité d'urgence, c'est vraiment un endroit où sont les pauvres, les malheureux, les bidonvilles presque, on pourrait dire, de Saint-Malo, comment cette femme, à force de courage et d'opiniâtreté, est arrivée à s'en sortir, et non seulement s'en sortir, mais même avoir pignon sur rue dans un magasin.
Oui, mais je pense qu'effectivement, pour les Malouins et les Malouines, le plus important, c'est de rester debout, quoi qu'il arrive. On peut connaître les pires épreuves, mais on doit rester debout. Et nous suivons en cela l'exemple d'un des plus illustres Malouins, c'est-à-dire François-René de Chateaubriand, qui lui a choisi de rester debout, même par-delà la mort.
Et on peut citer aussi, comme je disais tout à l'heure, Surcouf, puisque c'était un corsaire, et non pas un flibustier, mais un corsaire du roi, qui a quand même coulé par le fond plus de 50 navires anglais, et qui est mort de sa bonne mort, et qui est enterré tranquillement. Donc il n'est pas mort sur la mer, il n'est pas mort dans la guerre, il est mort avec tous les honneurs d'un type qui avait bien vécu, et qui avait condamné quand même les pires ennemis de Saint-Malo, qui ont toujours été les Anglais, non ?
Oui, tout à fait. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça le reste, mais... Mais oui, effectivement, il a coulé 50 navires anglais et en seulement 5 ans.
En seulement 5 ans. Amal, je voudrais vous demander quelque chose. Vous êtes professeur donc, dans ce lycée français. Est-ce que vous pensez que ce genre de roman qui fait d'une pauvre femme une femme qui devient en vue et qui est aisée après avoir beaucoup travaillé, est-ce que vous, en tant que professeur, ce genre de roman, ça peut vous aider dans la pédagogie ?
Bien sûr, parce que selon nos séquences, on a une séquence qui concerne la femme. Alors, comment la femme, elle lutte pour avoir ses droits, pour avoir sa présence dans la vie, c'est comme vis-à-vis de la domination masculine, bien sûr. Alors, je vois que ce roman, ça sera bien, ça sert bien cette idée et la développe.
Voilà, donc la femme qui est relativement bas, chez vous c'est encore bien, je dirais pas plus ni pire, mais en attendant, la femme, elle a à chaque instant besoin de se montrer, besoin de montrer qu'elle existe, besoin de montrer qu'il n'y aurait rien s'il n'y avait pas elle, puisque aussi bien en Europe qu'ici, on est quand même plus ou moins macho et c'est l'homme qui commande et la femme a besoin de se battre à Saint-Malo parce que son mari risque la mort, à la pêche ou dans la mer, et ici peut-être que la femme ne risque pas la mort, mais en tout cas elle risque de passer non pas au second mais au troisième ou quatrième degré. Donc un livre comme ça peut vous aider aussi dans la pédagogie pour montrer qu'on peut réussir même quand on tombe bien bas, et puis aussi dans le rôle de la femme, et je dirais pas la supériorité de la femme, mais au moins l'égalité.
Exactement, spécialement la femme orientale.
Michel Foulet, on parle un tout petit peu du second livre. C'est
oui.
Retour sous les remparts.
Oui.
Qui est cette Zoisic qui est l'héroïne du début du livre cette fois ?
Alors au départ, lorsque j'ai écrit À l'ombre des remparts, je n'avais pas imaginé écrire une suite. C'est quelque chose qui m'a été demandé par mes lecteurs. Donc j'ai imaginé ce qu'aurait pu être la vie d'une petite fille de Léopoldine. Donc j'ai choisi effectivement Zoisic, à qui va arriver plein d'aventures, qui fera ce que font beaucoup de Malouins et Malouines, qui quittera la cité historique à l'âge de 20 ans, parce que quand on a cet âge-là, on trouve que les murs sont un peu étroits de la ville, et on s'en va. Mais on finit toujours par revenir, et donc c'est aussi cette expérience-là qui est dans ce livre-là.
Zoisic, en fait, est la petite fille prodigue.
Voilà, quelque part, c'est un peu ça.
Qui est accueillie par sa maman, qui jusqu'à maintenant n'avait pas donné signe de vie, mais quand sa fille revient, et elle revient à un moment, je peux dire qu'une partie du livre des remparts, le premier, est relativement triste, et puis après tout s'arrange. Mais le second, je dirais que, en tant que lecteur cette fois, il est triste à pleurer. Parce que cette Zoisic qui revient après plusieurs années à Paris et qui n'ose pas se montrer à la famille, qui retrouve son arrière-grand-mère dans son cercueil derrière une colonne de la cathédrale de Saint-Malo, il y a quelque chose à ce moment-là qui est poignant. Est-ce que la famille va l'accepter ? Sa grand-mère ne l'aura pas revue. Il y a un moment, en tout cas pour moi, qui est extrêmement sensible et que vous faites bien ressortir dans vos phrases courtes.
Alors j'étais hier matin au lycée français d'Alexandrie et justement les élèves me demandaient comment on pouvait écrire, comment on devenait écrivain, comment il était possible de traduire ce qu'on écrivait. Et je leur ai dit, avant de réfléchir à la grammaire, à la syntaxe, faites d'abord ressortir vos émotions. Il doit y avoir sur le cahier autant d'encre que d'émotions. Je pense que c'est ça qui touche le lecteur. Donc moi, j'essaye d'écrire ce que j'aimerais lire.
Alors, est-ce qu'on peut traduire ce que vous venez de dire, Michel Foulain, en disant, est-ce que dans vos romans, vos deux romans, bientôt le troisième, est-ce qu'il y a en filigrane du Michel Foulain ?
Ah ben oui, forcément, hein. Je pense que chaque auteur met un peu de lui-même dans ses écrits. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'entre les pages d'un livre, on retrouve l'âme de l'auteur.
Deux livres déjà écrits, un troisième qui va sortir dans une semaine. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Ben, ça sera le troisième de la trilogie. Donc, il faudra attendre à peu près la moitié du livre pour retrouver la corrélation avec les deux premiers. Donc, ça sera vraiment que la deuxième moitié du livre où on retrouvera les personnages des deux premiers. Voilà, donc ça sera l'histoire d'une petite fille d'abord, puis d'une jeune fille qui, par le plus grand des hasards, si toutefois il existe, s'appelle Léopoldine, mais elle ne sait pas pourquoi. Voilà.
Alors on n'en dira pas plus. Voilà. On attend simplement le 8 juin pour la sortie de ce troisième livre.
Tout à fait.
Alors là, c'est une trilogie. Pour terminer, vous nous parlez un petit peu de ce que vous avez déjà écrit, qui attend d'être publié, et puis ce sera le quatrième, et puis peut-être un cinquième.
Oui, alors le quatrième, qui je pense sortira en fin d'année ou au tout début 2015, donc là il n'est plus question des remparts, comme je disais tout à l'heure, ça y est, j'ai fait le tour des remparts, et donc le cinquième, que je compte bien écrire dès mon retour en France, et comme je le disais, qui parlera d'Égypte. Donc, ben, je vais vous donner le titre. Ça sera Une fleur de blé noir sur les pyramides.
Voilà, un quatrième, un cinquième livre à étudier au lycée français du Caire, où nous avons été heureux aujourd'hui de recevoir l'écrivain Madame Michel Foulain, et puis vous, Amal, qui êtes professeur ici dans ce lycée, et Anna, qui avait super bien préparé ses questions. Merci à vous et bravo. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Tra la 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 la, trimartolo.